RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, et c'est en direct à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. Flora Guebali est avec nous, elle est entrepreneur à la transition écologique. Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, nous accompagne, tout comme Bruno Poncet, le cheminot. C'est la deuxième heure des GG. Tout à l'heure à 10h40, on regardera ces candidats qui se préparent. C'est intéressant parce qu'il y a deux unes de magazines avec un ex qui ne pense qu'à ça, il se prépare, c'est François Hollande, et un jeune qui se voit bien à l'Élysée succéder à Emmanuel Macron, paraît qu'il sait, il sait ce qu'il faut pour la France, pour diriger la France, c'est Gabriel Attal. Et alors là, on vous dit, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous fait rêver? C'est 32-16 qu'on en parlera tout à l'heure à 11h-20, à 10h40. D'abord, on va s'intéresser à la nouvelle génération qui arrive au travail, aux jeunes qui disent « Ok pour un boulot, mais est-ce que j'ai du télétravail ?» C'est une étude aujourd'hui qui le démontre. Les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, tout du moins à certains postes, bien évidemment, disent « Ok, d'accord, mais conditions sine qua non pour que j'accepte ou que je signe avec vous, il me faut au moins un jour ou deux jours de télétravail. »
Oui, on voit que la façon d'envisager le travail a évolué avec cette nouvelle génération. Le télétravail s'est imposé depuis le Covid, d'ailleurs pas que seulement chez les jeunes. Il y a maintenant beaucoup de salariés qui ont au moins une ou deux journées de télétravail par semaine. Et donc, on interroge les jeunes diplômés et ils expliquent que le télétravail, c'est non négociable. Ils sont même prêts à refuser un emploi s'il n'y a pas de télétravail possible. Est-ce que vous comprenez cela,
Bruno?
Évidemment que je le comprends.
Est-ce que c'est pas un caprice?
Mais pas du tout. Mais en fait, en plus, c'est les entreprises qui ont imposé ça.
Les conducteurs de train font du télétravail.
Non, mais bientôt ils le feront parce que les trains sont automatiques, tu verras. Ça existe déjà. Bah, bien sûr. Hein. Non, mais moi, je me rappelle, moi, j'ai négocié l'accord télétravail SNCF en 2017. Et en fait, à l'époque, c'était deux jours et très peu de gens le faisaient. Et arrive le Covid et ils nous ont tous forcés à être chez nous, à faire du télétravail. Et d'un seul coup, bam, le télétravail, c'était faisable pour tout le monde et 5 jours sur 5. Donc en fait, une fois que t'es revenu après au boulot, on va pas t'expliquer, en fait, le télétravail, c'est plus possible, faut que tu retournes à 5 jours. En plus, les gens, post-Covid, il y en a plein qui sont partis, qui ont dit, bah, moi, je vais aller habiter un peu plus loin que la ville parce que j'en peux plus de vivre dans un 20 mètres carrés avec un balcon qui fait 3 mètres carrés. Donc en fait, le télétravail est devenu une ressource supplémentaire pour les employeurs pour attirer des gens, c'était vrai. Et puis moi je vous rappelle que Renault, Stellantis et plein d'autres ont dit, bon, on a arrêté d'avoir une Renault le principal, on dit moi je veux plus, j'ai plus besoin de bureau pour faire une direction, tout le monde en télétravail dans ma direction. Les reviennent en arrière parce que soi-disant les gens en télétravail ne produisent moins. Moi ça m'a toujours fait rigoler ça. Moi j'ai vu du télétravail avec mes chefs où les chefs se faisaient des réunions toutes les demi-heures pour dire qu'est-ce que tu fais, alors qu'en fait t'es en train de faire ça chez toi, tu vois. Mais le télétravail, les jeunes aujourd'hui, c'est pas qu'ils sont moi je ne comprends pas comment on peut toujours opposer les jeunes aux vieux. Moi je veux dire, le télétravail aujourd'hui, les jeunes, peut-être qu'il y en a plein, et moi dans ma boîte aujourd'hui je travaille avec plein de jeunes, hier j'étais entouré que de gamins, j'étais le bicentenaire là-dedans. Je crois même qu'ils auraient pu être mes petits-enfants. Et en fait, en discutant avec eux,
c'est un intérêt pour le salarié, le télétravail, je comprends bien, mais pour l'employeur,
ben pour l'employeur, déjà c'est que t'as moins de locaux. Moi, les SNCF, ils font du flex office, donc c'est-à-dire qu'au lieu de passer aujourd'hui à un bureau,
oui,
par personne,
mais dans le management des équipes, quand tu t'as jamais perdu. En fait, les gens sont jamais tous ensemble.
Si, bien sûr que
mais
si.
Non,
mais si, ils t'imposent une journée ou deux dans
alors
la semaine.
On n'a pas télétravaillé vendredi.
Mais ça n'a rien à voir, ça. Moi, dans ma boîte, le télétravail, c'est par exemple le mardi ou le jeudi, tout le monde est là. C'est comme ça. Et si quelqu'un qui n'est pas là, mais en fait, moi, là où je travaille, par contre, on est là du mardi au jeudi tous. Hein. Mais en fait, le télétravail, c'est devenu un,
mardi au
un
jeudi,
critère.
Trois jours, hein.
Et de toute façon, si tu veux.
Et là, on est jeudi.
Oui.
Le télétravail.
Bah ouais, moi non, je viens de te dire mardi.
Il a travaillé depuis tout à l'heure.
Ouais, mais moi je.
Donc en fait, il y a que 3 jours dans ta boîte où on est en présentiel, comme on dit.
Non, pas dans ma boîte. Là où moi je travaille.
D'accord.
C'est des accords par établissement. Okay.
Et le reste, c'est du télétravail.
Mais tu vois, par exemple, moi j'aurais dû être en télétravail lundi, j'étais au boulot. Moi, je préfère être au boulot que être en télétravail. Le télétravail, ça me branche pas plus que ça.
Tu vois.
Mais moi, je suis vieux aussi.
Moi, je suis Laurent.
Ça fait vraiment partie des choses. On reviendra pas en arrière. J'ai aucun doute. Plus personne n'acceptera. Alors, effectivement, faut préciser de quoi on parle. Oui, on parle des emplois cadres, etc. Parce qu'on parle des gens qui n'ont pas besoin. C'est pas les artisans commerçants, en tout cas.
Non, mais.
Pardon.
Les emplois transverses, c'est pas des cadres.
Oui, non. Et bien sûr, mais on parle de gens qui peuvent travailler à distance. Donc, qui, globalement, travaillent sur un ordinateur.
Les boulots de col blanc.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on reviendra pas en arrière, donc le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut oui ou non du télétravail, c'est comment on crée un management qui est adapté à ce télétravail, mais en plus on va aller encore beaucoup plus loin, parce que entre l'intelligence artificielle, etc., ça rebascule totalement la façon dont on a de travailler ensemble, de collaborer. Et ce qui est débile, c'est que moi je le vois, parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc je me promène dans les entreprises, donc je vois bien comment ça marche, c'est qu'on maintenant on vous fait venir au bureau pour vous mettre en réunion visio. Donc vous faites une heure de transport et après vous vous mettez derrière un ordinateur. Donc ça n'a aucun sens. Donc moi j'encourage les entreprises à faire du télétravail quand il s'agit de travailler sur un ordi, et quand on est ensemble, on ferme les écrans et pour le coup, on se parle, on discute et on fait pas ni travailler l'IA ni travailler les outils digitaux.
Est-ce qu'on sait faire encore? C'est-à-dire que si on ne travaille plus jamais ensemble, c'est-à-dire que si chacun est dans son coin, le jour où on doit être ensemble pour travailler, on n'a plus le mode d'emploi pour
non,
ça. Travailler en équipe, ça, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et les salariés qui sont en total télétravail sont très malheureux aussi. Donc la question, c'est les...
Moi, je connais des gens en télétravail. Au début, ils trouvent ça c'est formidable parce qu'ils ont l'impression d'être, ils sont en pyjama chez eux et qu'ils ont quand même l'impression d'être un peu en vacances chez eux.
Comme
quand même.
Le patron du GIEC qui lance les.
Mais quand même, ils sont très isolés. Et puis, t'es pas près de ton manager. Pour les augmentations, pour te faire bien voir, etc. C'est plus compliqué.
Mourad, ouais. dans ta maison d'édition, est-ce que tu as beaucoup de gens en télétravail?
Oui, j'ai eu différentes périodes de ma vie. J'ai tout à l'heure eu beaucoup de salariés à une époque où le télétravail n'existait pas.
Oui, ça c'est clair.
C'est difficile d'avoir une position parce que ça dépend vraiment des personnes. J'ai eu des salariés en télétravail qui peut-être en faisaient plus que si ce n'était pas en télétravail. Oui. J'en ai. Puis j'en ai qui font beaucoup moins. Donc ça dépend vraiment de l'implication des personnes. Donc moi, ma position a toujours été de dire que c'est pas le temps de travail qui crée la richesse, c'est la qualité du travail. Je préfère quelqu'un qui produise de la richesse en 10 heures que quelqu'un qui produise rien en 35 ou en 30 ou en 40. Et que donc c'est pas la quantité. Ça c'est le côté pour défendre un peu le télétravail et le bien-être des gens. Après, à côté, je sais aussi que la notion d'équipe est importante. Moi, je me souviens dans ma première boîte d'édition, il y avait la machine à café.
Oui.
C'était un endroit magique. Il y avait des échanges entre chacun et on trouvait des idées incroyables tout en commandant un café. Et puis c'était aussi un moment important dans une entreprise,
la convivialité,
où les gens étaient entre eux. Et ce lien, pendant des périodes difficiles, les périodes de bourre par exemple, bah, il peut servir parce que les gens, il y a ce lien qui s'est créé où on dit bon, bah là, il faut en mettre un peu plus. Après, ça sera plus calme, on va se rattraper. Et ça, en télétravail, c'est pas possible. Après, pour vous donner des anecdotes, en télétravail, j'ai des gens qui m'expliquent, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je prends l'avion toute la nuit, est-ce que je peux être en télétravail dans l'avion? Ça existe. J'ai des gens que j'appelle qui sont en télétravail, qui me disent, je suis désolé, je suis dans le train, ça passe pas. Ça, c'est aussi la partie bizarre du télétravail. Après aussi, dans des périodes comme celle-ci, je veux dire que c'est sûr que c'est un confort économique que de pouvoir travailler de chez soi, parce que le déplacement, ça coûte cher.
Ah, oui.
Par exemple, ça coûte très cher. Mais en même temps, c'est un inconfort économique pour la vie sociale. Par exemple, le petit bistrot qui travaillait
à ça,
grâce à l'entreprise, lui, il va plus bosser parce que les gens sont chez eux. Donc, moi, j'ai du pour et du contre. J'ai du mal à me
faire l'émulation. Et pour l'émulation,
de pas faire du pas d'apporter, j'essaie de faire du sur-mesure en fonction des
personnes. Mais c'est pas du sur-mesure.
Oui, mais tu vois, pour l'émulation, c'est une transition. Donc, le petit bistrot qui est à côté, si on se dit que les jours où on est au travail, on passe du temps de qualité ensemble, bah, on va aller au petit bistrot, on va prendre le temps, on va déjeuner. Oui, mais c'est aussi, les gens, ils déjeunent aussi qu'un sandwich devant leur ordinateur au bureau. Donc c'est aussi comment on crée un temps de convivialité quand on est ensemble, sans écran, et comment on crée un temps d'efficacité quand on est séparé sur écran.
Non mais les gens, en plus, ils comprennent pas. Je pense que là aujourd'hui, dans les discours, on entend le télétravail. Mais le télétravail, c'est pas du 100% télétravail.
Il y a très peu de boîtes qui fonctionnent comme ça. Trois jours.
C'est voilà. T'es trois jours au boulot en règle générale, et t'es deux jours en télétravail si tu veux. Ouais. Parce que le télétravail, moi, dans ma boîte, c'est un choix. C'est pas une obligation. Donc à un moment donné, c'était une obligation pendant le Covid. Et ça, moi, j'ai toujours un peu en train de la gorge cette histoire. Mais enfin, c'est autre chose. Mais en fait, tu vois, et je trouve qu'à un moment donné, faut arrêter de fantasmer. Le télétravail, c'est pas je suis cinq jours chez moi en slibard et puis j'attends que mon patron m'appelle.
Mais existe aussi, hein.
Mais oui, mais ça existe.
Et comment tu le contrôles?
Bruno, mais ça choque du patron.
Regarde les gens du patron.
Voir
les gens
qui demandent
une journée de congé, c'est rarement une journée de télétravail. C'est souvent une journée présentielle. La majorité est écrasante. Sur les congés courts, alors sur les congés longs, ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a des jours de télétravail. Mais sur les congés courts, quand ils veulent une journée ou deux, c'est que des jours en présentiel.
Oui, mais les salariés qui traînent à la machine à café et qui foutent rien de leur journée au bureau, ça existe aussi.
Mais tu les vois tout de suite. Alors qu'à la maison, comment tu contrôles?
Impossible.
On a Adèle qui veut intervenir dans notre discussion. Il est du côté du Val d'Oise. Ah ben, il est manager, justement. Bonjour, Adèle.
Bonjour, Adèle.
Bonjour, bonjour.
Alors, on rappelle, un jeune sur deux refuse les emplois s'il n'y a pas de télétravail. Est-ce qu'ils ont raison? Faut s'adapter à eux ou est-ce que c'est du caprice? Dites-moi.
Alors, c'est plus que du caprice. Pour moi, c'est même limite inadmissible. Désolé, je vais être un peu cru. Moi, la situation là que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis arrêté. J'ai garé la bagnole. J'ai dit, il faut que j'appelle les grandes gueules et partager un petit peu mon expérience. Moi, ce qui se passe, c'est que depuis à peu près 2 ans, le télétravail, 8 fois, 9 fois sur 10 entretiens, il intervient. Donc moi, on me pose clairement la question, est-ce qu'il va y avoir des journées de télétravail? C'est simple, même si la personne a les bonnes compétences et qu'il correspond parfaitement au profil recherché, je ne le retiens pas.
Pourquoi? Ah oui, vous l'éliminez, pourquoi?
Parce que pour moi, le télétravail, je vais être honnête, moi, ce qui me surprend en soi, ce n'est pas le télétravail, c'est la manière dont les jeunes aujourd'hui les réclament. Aujourd'hui, tu reçois un candidat, il n'a même pas commencé, il ne connaît ni l'équipe, des fois même pas le métier.
C'est vrai, ouais.
Même pas le métier. Tout de suite, il y a combien de jours de travail? Mais à quel moment c'est devenu la priorité? Quand tu débutes...
En fait, c'est
moi,
devenu quasiment un acquis social.
Oui, il a totalement raison, là.
C'est vrai.
Mais ouais. Au début, tu es censé apprendre, regarder comment
bien sûr.
Les autres, poser des questions.
Ça peut venir dans un second temps.
Voilà, créer des liens, tout ça, ça se passe au bureau, c'est pas derrière une webcam. Après, encore une fois que tu es expérimenté, tu deviens un peu autonome, pourquoi pas négocier une journée ou deux? Mais là, c'est dès le début, j'arrive, eh ben écoute, moi, je vais... Pour moi, c'est simple, télétravail... Bah,
c'est téléglando, là.
Ouais, ça peut être un avantage au début d'une carrière, mais au début d'une carrière, pour moi, la vraie richesse en entreprise, c'est la présence.
Oui, parce que si un jeune commence par faire du télétravail, il n'aura jamais vraiment l'expérience de travailler en équipe.
Moi, j'entends ce que dit Abdel, mais Adèle, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous pourriez expliquer ça aux jeunes quand ils vous demandent du télétravail, pour un peu leur cadrer en disant, écoute, tu vas déjà commencer à bosser, tu vas voir avec tes collègues, et puis on verra au bout de 6 mois si on peut faire du télétravail, et puis adapter. Et puis surtout, il faut que tu aies un lieu de télétravail qui soit faisable. Moi, ma boîte, quand on faisait du télétravail, elle vient chez toi regarder si t'as position ergonomique, si t'as la connexion internet qu'il faut et tout. En fait, c'est ça le télétravail. C'est pas uniquement, tiens, j'en veux, tu vois.
Mais je crois que vous vous rendez pas compte que ça va beaucoup plus loin. Moi, aujourd'hui, c'est des personnes qui vont du télétravail pour adapter, en tout cas, leur vie privée. Moi, j'ai des personnes qui me disent, je dois aller récupérer ma gamine à 11h30 à la cantine. Ah, 11h30, et si je te mets un call, moi, à 11h30, et qu'on a une réunion client, comment on fait? Il est là, le problème, aujourd'hui. C'est pas possible. Tu mets la gamine à la cantine...
Mais c'est-à-dire, Adèle, c'est vrai que avant, quand on négociait un contrat, on s'intéressait surtout à l'argent. Bah oui. Tu vois, à combien tu dealais, combien tu négociais.
Pas l'autre.
Maintenant, c'est moins l'argent que le télétravail. Donc, si je comprends bien, c'est ça. C'est le confort. Le confort. Ouais.
Je pense qu'il faut y aller doucement. On va pas faire de généralité.
On va pas se mentir. Il y a des gens pour qui le télétravail, c'est des jours de semi-repos.
Voilà. Absolument. Ouais. Entièrement d'accord.
C'est ça. Mais là aussi. Oui, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Ah, on peut pas globaliser. Il faut faire du sur mesure.
Oui, mais
j'ai des gens vraiment qui sont en télétravail et je sais pas s'ils m'écoutent et je peux vous dire que ils en font 10 fois plus que s'ils étaient en présentiel parce qu'ils sont hyper impliqués.
Ouais, puis ils sont productifs.
Et il y en a. Bah, tu peux écouter. Il y en a que j'ai eu, c'était pas le cas, quoi.
Oui, mais là, ce que nous dit Adèle, c'est très intéressant, c'est que. Maintenant, c'est considéré comme un acquis social.
Oui.
Tu viens en disant, ah, si j'ai pas de télétravail, moi, je viens pas bosser chez vous. C'est vraiment là.
Et c'est
là.
Que le début.
Donc, ça veut dire quand même que pour les gens, le télétravail, c'est plus sympa que de bosser avec les autres.
Ça veut dire.
Et on est quand même dans un monde, je suis désolé, dans une génération très tournée sur elle-même, où le collectif, ça devient secondaire.
Ouais, où on s'occupe de ses enfants.
C'est des jeunes diplômés.
On prend plaisir à leur faire à déjeuner.
Des jeunes diplômés qui veulent plus faire d'enfants. Mais tout ça, c'est faux. C'est des jeunes diplômés qui ne veulent plus faire d'enfants. Ces jeunes ne veulent pas faire d'enfants puisqu'on a un problème de natalité. Ils veulent rester à la maison. Ils veulent leur petit bonheur personnel. Le collectif, on s'en fout d'une manière générale. C'est une génération d'égoïstes.
Le plus dangereux, Olivier et Flora, c'est qu'on va peut-être vers une génération qui souhaite produire et consommer sans sortir de chez elle.
Mais c'est ça,
ça devient dangereux. Produire et consommer. Ouais, ils télétravaillent et ils appellent Uber Eats pour commander à bouffer.
Je vais poser la question.
La génération cocooning.
Je voudrais poser la question à Adèle. Adèle, justement, quel est le profil de ces jeunes? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont jeunes parents ou pas, justement, pour s'occuper des leurs, de leurs enfants ou pas?
Alors, ça dépend. Il y a des jeunes parents qui, eux, vont parler des enfants et le fait qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir s'en occuper s'il n'y a pas au moins... Alors en plus, le paradoxe maintenant, c'est que...
S'occuper pendant le travail, quoi.
Limite, quand on refuse ça et quand on leur explique que ce n'est pas possible, le paradoxe, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le monde du travail, c'est que ça devient l'entreprise qui devient louche. C'est nous, aujourd'hui, qui devons... On doit se remettre en question. Et moi, je veux parler d'un point aussi important, c'est la fracture que ça peut créer entre ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir avoir des métiers qui nécessitent du télétravail. Oui. Moi, je sais que j'ai des agents logistiques, j'ai des techniciens IT, mais j'ai aussi des personnes qui font du recrutement et de la conduite d'activité. Ils peuvent travailler au même endroit. Je suis désolé, le mec qui se lève tous les matins à 6h30 pour faire 1h30 de transport et venir porter des cartons, il dit « Putain, là, je suis monté à l'étage tout à l'heure au niveau administratif, je n'ai pas vu, il a la chance, lui. Ça fait 3 jours qu'il est chez lui. » Donc ça aussi, il faut le voir, socialement, ça crée une fracture, je suis désolé.
Oui, c'est ça, dans la boîte, ça peut créer un malaise aussi, en disant, il y a ceux qui sont... T'as besoin d'un renseignement, ben non, il n'est pas là, il est en télétravail, on le voit nous aussi d'ailleurs.
Adèle, je cherche du boulot, je rêve d'être salarié, je ne veux pas de télétravail, je rêve des congés payés, je rêve des arrêts maladie ou des congés maladie, je rêve des RTT, je rêve d'avoir un comité d'entreprise, d'avoir des jours de congé comme ça à droite à gauche en fonction de ce qui m'arrive dans la vie, je rêve d'avoir des crédits faciles en banque parce que j'ai une fiche de paye, je rêve d'avoir une mutuelle qui m'est payée, donc voilà, si je cherche aujourd'hui à être salarié,
télétravail c'est un sujet,
voilà, donc si vous avez des pistes, vous me dites, c'est le rêve de ma vie aujourd'hui, c'est le rêve de ma vie.
Non, parce que Mourad il peut faire son œuvre, mais tous les bourgeois comme Mourad qui ont acheté une maison dans le Perche et puis qui disent moi je vais le télétravail le vendredi et le lundi, comme ça je suis dans la maison dans le Perche. Il y en a quand même.
Je vais te donner une information que tu connais pas et ça va être un scoop.
Le Perche, hors de question.
Pour en arriver là, il faut avoir fait beaucoup de sacrifices. J'ai pas gagné au loto.
Non mais c'est bien ce que j'ai. Mais voilà. Moi, c'est pas pour nous dire.
Voilà.
Moi,
ce que je vois, gagné au loto. Moi, je vois une génération qui a pas gagné au loto.
Oui, mais t'as des cas supérieurs.
Il y a une génération qui a pas gagné au loto.
Et qui malheureusement. Les jeunes, machin, les jeunes, ouais, mais les cas supérieurs. Ils sont bien contents le vendredi et le lundi d'être dans leur maison du Perche à siroter.
Alors c'est vrai qu'il y a un problème de logement.
En faisant un petit peu de piscine.
Moi, je trouve que l'un des arguments intéressants.
On y arrive quand notre train il arrive à l'heure.
Non, mais l'un des arguments pour
télétravail,
c'est de pouvoir effectivement vivre ailleurs, parce que t'es au lieu de vivre dans un petit appart de centre-ville, ça te permet d'aller, de sortir du centre-ville.
Non, alors, peut-être, contre, on peut envisager une semaine de 4 jours, moi ça me choque pas.
Dans un instant, on sera avec.
Si c'est plus concentré,
on sera avec Michael du côté de la Seine-Maritime, il est cadre supérieur, justement, il va nous expliquer comment ça se passe, son télétravail, puisque là, et ce que nous disait Adèle il y a un instant, et je remercie d'avoir été avec nous. En fait, on a deux France là qui sont en train de s'affronter au 32-16. La France qui peut se permettre le télétravail, et puis la France qui ne peut pas se le permettre.
Les éboueurs, les pauvres, le chauffeur de taxi peut pas.
C'est extraordinaire, quoi. D'exiger de pouvoir rester chez soi pour travailler, quoi. On continue. Un jeune sur deux qui refuse des emplois s'il n'y a pas de télétravail. 32-16 pour en parler avec nous. Puis vous n'oubliez pas le plein d'essence. Ouais. Là, c'est en envoyant plein par SMS au 732-16, vous gagnez 120 euros d'essence grâce à RMC. Plein par SMS au 732-16, c'est tiré au sort, ça se passe hors antenne, mais tout à l'heure quand même, on aura un gagnant, nous, dans les GG, en direct à 11h20. Allez-y, faites 120 euros d'essence, c'est pour vous. Il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Refuser un emploi parce que on ne propose pas de télétravail ou l'accepter à condition qu'il y ait du télétravail, c'est notre sujet de discussion là qui est en train de mettre le feu au standard d'RMC au 32-16. Il est 10h25, on va continuer d'en parler. Michael, bonjour.
Bonjour.
Cadre supérieur, est-ce que vous comprenez ces jeunes qui refusent un emploi s'il n'y a pas de télétravail ?
Eh bien, en fait, je trouve ça normal que les enfants fassent ça, puisqu'on leur apprend ça premièrement à la fac. D'abord, il faut partir déjà d'un premier contexte, c'est de dire que ce qui est absurde, c'est de dire le chauffeur de taxi a droit au télétravail, lui non. Effectivement, on enlève une partie de la population qui n'y a pas le droit. Ça sert à rien de les opposer, c'est dans le contexte du travail. Si je choisis d'être chauffeur de taxi, évidemment, je ne peux pas faire de télétravail.
La partie absurde,
elle est enlevée. Maintenant, sur tout le restant, tous les gens qui y ont droit, eh bien, il n'y a pas de... Les gens ne sont pas tous des feignasses chez eux, en caleçon, que ça se passe, quoi. Je veux dire, moi, je fais du télétravail en home office, donc en total télétravail, je dirais, depuis 2017.
Télétravail ?
Pardon ?
Tous les jours, vous êtes en télétravail ?
Tous les jours, je suis chez moi.
Après, actuellement, vous êtes en télétravail,
donc. Je vais voir des clients, j'ai pas mal de choses à faire.
Ah oui, vous sortez quand même de chez vous, de temps en temps.
Oui, je reste pas que chez moi. Mais effectivement, le bureau qui est en région parisienne, à la Défense, j'y vais peu de temps. J'y vais une fois par mois quand j'ai des dossiers importants ou des choses à revoir.
Ah oui, c'est
mais
cool,
on travaille tous les jours. Je veux dire, on a quelque chose de très organisé, très cadré. J'entendais au début de cette intervention les augmentations, la visibilité. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis augmenté tous les ans. Tout va très bien. Les résultats sont faits. C'est managé au résultat. On a des appels téléphoniques, je dirais, toutes les semaines avec sa hiérarchie. C'est plutôt...
Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Si vous avez un intéressement, c'est pas la même chose.
Est-ce que
si vous avez un intéressement, c'est sûr que ça relance, ça redistribue les cartes.
Mais bien sûr. Mickaël, est-ce que vous avez l'impression...
Un commercial, il peut faire du télétravail s'il est payé à l'intéressement, c'est sûr.
Mickaël, est-ce que
vous avez l'impression...
Je voudrais juste poser une question à Mickaël. Est-ce que vous avez l'impression d'être un salarié privilégié?
Oui. Oui, mais tous les salariés dans mon entreprise, il y a 1000 personnes en France, 6000 à l'international, aujourd'hui ont la possibilité de faire du télétravail 3 jours par semaine pour ceux qui ont besoin d'aller au bureau. Et mais s'ils le souhaitent, il y a aussi la prise en compte des risques.
En fait, vous voyez jamais vos collègues.
C'est pas ça. Bah si, je les vois une fois par mois ou par téléphone. Ou par
et ça suffit.
Oui, par téléphone.
Alors, par contre, juste un petit bémol sur le télétravail, c'est la mondialisation du travail aussi. C'est ce qui explique que des fois, on appelle un service après-vente, on en a qu'au Bangladesh.
Ah oui,
qui est payé 150 euros par mois.
Voilà, Mickaël, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Jérôme, parce que de la Seine-Maritime, on va aller du côté de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire de la Normandie, on va vers Nantes, si je regarde bien la carte.
Oui, c'est ça.
Mais là, on est à Pornichet, précisément. Bonjour, Jérôme.
Bonjour. Alors, les GG,
je vous repose la question. Un jeune sur deux qui refuse des emplois sans télétravail, c'est un caprice ou ils ont raison?
Je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, le télétravail, ça a existé depuis très très longtemps. Hein. C'est juste les moyens technologiques qui ont changé. Moi, j'ai une copine qui a été télétravailleuse pendant 20 ans. Mais justement, c'est là où aussi, moi, je voulais mettre en garde les jeunes. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise, mais j'ai été salarié pendant 10 ans. J'ai eu ma boîte pendant 20 ans. Aujourd'hui, je me consacre plutôt à aller aider des jeunes chefs d'entreprise, à aller intervenir en école de commerce ou en bac plus 2 ou choses comme ça. Et là où je dis il ne faut pas se gourer, c'est que vous avez deux systèmes. C'est-à-dire que soit vous avez quelque part une ambition, vous voulez faire un développement personnel, encadrer des équipes, etc. Et là, dans ce cas-là, franchement, le télétravail, les absents ont toujours tort. C'est-à-dire que dans les boîtes, ceux qui ont les postes, c'est quand même ceux qui sont sur le pont. Et comme je disais à un de mes fils, je dis écoute, t'as deux choix. C'est tu vas faire le télétravail et puis t'en profiteras pour faire ta lessive, ton ménage, ton repassage, ou tu taffes et tu gagnes des sous et tu paieras quelqu'un pour le faire. Mais le choix, il est aussi simple que ça. Et de l'autre côté. Et donc je mets en garde aussi parce que quand il y a une charrette dans une boîte ou chose comme ça, c'est ceux qu'on voit jamais, c'est ceux qu'on voit pas, c'est ceux-là qui dégagent en premier.
On est d'accord. Ce que je disais tout à l'heure sur les augmentations,
Et retrouver du taf, c'est une autre paire de manches derrière. Là, c'est beaucoup plus compliqué.
Surtout si t'es en télétravail et qu'après t'arrives dans la prochaine boîte, ça fait pas la même chose.
Chacun aussi d'être honnête avec ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit vous voulez juste encadrer une souris d'ordinateur. Et pas de problème, il y a plein de jobs où le télétravail, ça le fait très bien. Et puis il y a plein d'entreprises qui sont contents d'avoir effectivement des collaborateurs répartis sur tout le territoire, chez eux,
etc. Est-ce que vous voyez pour l'entreprise?
Est-ce que vous pensez pas que ça risque peut-être de tirer les salaires vers le bas, justement pour les cadres, en disant écoutez, télétravail, finalement, puisque vous serez chez vous. Je vais vous payer je vais prendre en charge votre ordinateur et autres.
Alain, ça va au-delà de ça.
Allez-y, Jérôme, pardon.
Et puis celui qu'on connaît pas, qu'on voit simplement en visio de temps en temps, le jour où il disparaît du paysage, c'est moins sensible. Quand vous êtes chef d'entreprise, encadré des dizaines de types et de nanas, et que vous devez vous séparer d'un cadre, et que le cadre, il a une vraie, je vais pas dire emprise, mais une vraie influence sur ses équipes, etc., vous réfléchissez aussi à deux fois.
Oui, parce que vous savez, Jérôme, je regardais vite fait pendant la pause, sur mon portable, il y avait un gars qui était en télétravail et qui gérait des personnes elles-mêmes en télétravail. Tu vois, c'est-à-dire, c'était un chef d'équipe dans une grosse société américaine. Il avait 60 personnes sous ses ordres, mais 60 personnes qui elles-mêmes étaient en télétravail à travers les États-Unis. Oui, donc, en fait, c'est des gens qui ne se rencontraient jamais une fois par an en séminaire et qui étaient tout le temps en visio, quoi. Vivre une espèce de drôle de monde. Allez-y, Jérôme.
On est hypocrite parce que ça fait quand même des années que, par exemple, moi, ça fait, il y a quelques années, j'étais chez Free. J'appelais Free dans les années 2006-2007. C'était quelqu'un qui était de l'autre côté de la Méditerranée qui me répondait. Donc ça fait des années que les patrons ont imposé le télétravail, mais d'une autre façon, tu vois. Mais donc à un moment donné, on va pas non plus être hypocrite. Voilà, donc
après, c'est peut-être le...
Moi, ce que je voulais dire surtout, c'était au niveau des jeunes. Qui veulent parce qu'il y a quand même encore, j'espère, dans ce pays, des gens qui veulent s'épanouir professionnellement, avoir des carrières. Faut pas se mentir, gagner des sous pour avoir la belle vie. Je dis juste, je veux juste mettre en garde les jeunes, s'il y en a qui nous écoutent en télétravail depuis chez eux. Attention quand même, parce que il y a pas à tortiller. Faut pas oublier que la progression professionnelle, l'épanouissement professionnel, ça se fait par l'implication. Et je pense malheureusement que l'implication. Vous voyez, moi j'habite sur la côte. Je suis allé marcher là de bonne heure. Qu'est-ce que je vois dans l'eau? Vous avez des types en train de faire du kite, en train de faire du surf, etc. Bah, je peux vous dire qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas. En semaine, ça n'existait pas.
Ils sont tous en télétravail.
Mais non, c'est les vacances scolaires, détendez-vous aussi.
Mais si, bien sûr.
Les boomers.
Mais ce que dit Jérôme, c'est que. En fait, tout dépend ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu penses vouloir pouvoir faire carrière, progresser en étant en télétravail, ça ne marche pas, à mon avis.
Sauf si on modifie la base d'un contrat de travail. Effectivement, si on est sur un contrat de travail avec un intéressement, moi j'ai eu des commerciaux qui étaient en télétravail, j'étais pas inquiet parce que je savais que s'ils faisaient pas leurs chiffres, ils le ressentaient sur leur commission.
Bah oui.
Là, il n'y a pas de souci avec le télétravail. Donc c'est peut-être ça qu'il faut revoir à un moment donné pour les gens qui sont en télétravail. Et là, on est tranquille.
Attendez Jérôme, parce que vous mettiez en garde les jeunes. On a Solène qui est avec nous, qui est du côté de la Vendée, qui est référente technique et qui est en télétravail 4 jours sur 5. Bonjour Solène.
Bonjour.
Bonjour. Et donc vous auriez pu refuser un job si vous n'aviez pas eu le télétravail?
Alors, je pense pas que je refuserais un job parce qu'il n'y a pas de télétravail. Mais le télétravail est un attrait aujourd'hui sur une annonce en fait.
Et qu'est-ce que vous faites en télétravail?
Alors, moi, je gère une équipe, en fait, de 15 conseillers, en binôme avec une autre personne et avec une responsable. La responsable, elle, est sur site, elle fait du télétravail de temps en temps, mais nous, avec mon binôme, oui, on est en télétravail, et l'équipe aussi, en fait.
Donc, vous dites un binôme, mais vous le voyez jamais, enfin, vous le voyez par visio?
Une fois par semaine, je la vois, en physique.
D'accord.
Je vais tous les mardis. Et puis après, on se parle toute la journée par Teams. On échange sur les questions qu'il y a de nos conseillers, de ce qu'on a à faire.
Mais ça veut dire que eux-mêmes sont en télétravail?
Oui, tout le monde est en télétravail.
Oui, mais sur des conseillers, il y a une part de télétravail.
Mais vous
avez une part de fixe et de variable, j'imagine.
C'est fou, ça.
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous avez une part de enfin, vous et vos collaborateurs ont une part de fixe et de variable?
Non, en fait, on a un salaire.
Ouais.
Qui est fixe. Et après, on a une prime sur objectif.
Ah ben voilà, c'est
pour ça qu'en télétravail, on fait tout autant que sur site. Moi, personnellement, j'arrive à mieux me concentrer en télétravail parce que je suis dans mon bureau, je n'ai personne qui parle autour parce que c'est un open space. Donc en fait, ils gèrent un flux d'appels énorme. Des fois, en fait, on est plus attiré par la personne qui parle à côté avec quelqu'un au téléphone, un client au téléphone, que par ce qu'on fait.
Quels sont les avantages du télétravail dans votre quotidien? Expliquez-nous.
Et ben, par exemple, à la pause de midi, j'ai ma pause de 45 minutes. Je peux mettre la machine à laver en route, je peux faire la vaisselle.
Vous appelez les grandes gueules le jeudi matin aussi.
Exactement. J'ai pris ma pause, je me suis mis en pause, mon binôme est au courant et je peux vous appeler et je vous écoute toute la matinée.
Et en fait. Ça vous permet aussi de vivre là où vous voulez, de ne pas être lié à un lieu de travail?
Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis à 40 minutes de mon lieu de travail.
Ça aussi.
Donc, ça fait à peu près une heure et demie par jour de route. Je l'ai fait, hein, puisque moi, j'ai embauché en janvier 2020. Et en mars 2020, en fait, on a été obligé de se mettre en télétravail forcé, dû au Covid.
Oui, c'est forcé.
Et votre époux et votre compagnon,
il est en télétravail aussi.
Il ne se voit jamais. Il est chauffeur routier et je pense qu'il vous écoute. Donc, je lui fais un bisou.
Comment s'appelle-t-il?
On l'embrasse.
Rudy.
Solène, moi j'ai une question d'ordre personnel. Il n'y a pas du tout de jugement dans ma question. Est-ce que ça vous manque pas de pas voir des gens physiquement, en vrai?
Non, pas forcément.
Non, mais je vous pose la question.
Non, mais ça dépend du caractère de chacun. Je sais que j'ai des collègues qui sont restés sur site, qui restent tous les jours sur site, parce que eux, ça les intéresse pas.
D'accord.
Voilà. Une question personnelle, et soyez sincère, est-ce que des fois, vous en profitez un peu pour faire autre chose? Pendant le télétravail.
À part écouter GG,
allez-y, réponse sincère.
Oui. Des fois, je vais mettre la machine en route, mais c'est jamais des gros trucs.
Oui,
je pars pas de chez moi.
La machine en route, ça va.
30 secondes. Non.
Vous regardez pas une série.
Elle regarde les GG.
Mais comme au bureau, parfois, ça nous arrive tous de scroller sur un peu sur les réseaux sociaux ou de faire une recherche. Toi, je te vois, tu scrolles à toutes les pubs. Et t'es au travail.
Pendant la pub.
Ah, la pub, c'est la pause. Ah bah, il y a beaucoup de
pubs. Merci Solène du témoignage. C'est bien le télétravail. Parce que Anaïs Sen, ça pourrait ne plus voir vos deux têtes à tous les deux et celle de Gérard. Gerbier serait peut-être heureuse d'être en télétravail.
Alors, je ne vois pas Anaïs Sen, c'est Louis Gerbier tous les jours, je serais malheureux.
Un jeune sur deux refuse les emplois sans télétravail. Est-ce que c'est logique, c'est la nouvelle génération, ou est-ce que c'est un caprice? Est-ce qu'ils ont raison ou c'est un caprice? Et je vous remercie tous d'avoir été en direct avec nous pour partager vos expériences. Est-ce qu'ils ont raison? Non, vous dites à 61%.
Ouais, c'est moins
radical. Les boomers. Oui, mais il y a quand même un.
40%.
Il y a 38%.
Ouais. Vous serez tous remplacés par de la main-d'œuvre étrangère à 200€ le mois, vous verrez.
Et de l'IA.
Dans un instant, ils ont l'Élysée en ligne de mire. François Hollande, il y pense, il se prépare.
Oh là là.
Gabriel Attal, il sait ce qu'il faut faire pour diriger la France. Voilà. Mourad vient de me dire, est-ce qu'on est sauvé ou est-ce que ça vous désespère?
J'étais.
32-16 pour en parler avec les GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Journée spéciale sur RMC, journée plein d'essence, un plein d'essence à gagner toutes les 30 minutes. Attention, et on a le tirage au sort toutes les 15 minutes. C'est parti. Vous envoyez plein par SMS au 732-16, plein par SMS au 732-16. C'est 120€ d'essence qui sont à gagner. Là, c'est Carole, c'est ce qu'on me dit du côté du standard, qui a été tiré au sort et qui a gagné ses 120€ d'essence. Allez, envoyez plein par SMS au 732-16. Vous êtes sur RMC et RMC Story, Flora Yebali, Mourad Boudjelal et Bruno Poncet. On va regarder la présidentielle de 2027 avec deux candidats. On en a un paquet sur la ligne de départ. Mais là, ce week-end, vous n'allez pas rater les unes des magazines. Vous avez Marianne et Le Point, Hollande et Attal. Et c'est parti, François Hollande dans Marianne dit « Je me prépare » et dans Le Point, Gabriel Attal, lui, nous dit qu'il sait ce qu'il faut faire pour diriger la France.
« Je me prépare », c'est ce que dit François Hollande dans Marianne. Alors voilà ce qu'il dit l'ex-président de la République. « J'ai une différence avec les autres. J'ai déjà été président et je n'ai pas été candidat à ma propre succession en 2017. Je n'entretiens pas de relations passionnelles avec le pouvoir, mais avec la France. » Comment être utile aujourd'hui en me préparant donc pour la première fois officiellement? Et voilà, il explique son envie de reconquérir la fonction suprême. Et puis de l'autre côté, vous avez Gabriel Attal qui pense savoir comment il faut présider la France. Il le dit à la une du Point. Gabriel Attal qui sort un livre, En homme libre, c'est le titre de son ouvrage. Et avec ce livre, je veux parler au cœur des Français, dit-il, et repartir à leur rencontre. J'y affirme mes convictions et un projet sur lesquels je veux les convaincre. C'est une étape supplémentaire avant d'aller plus loin. Il veut faire part aussi de son expérience obtenue à Matignon. Attal, Hollande, l'ancien, le nouveau. Est-ce que ça vous donne envie?
32-16 pour le dire au GG. Flora.
Moi, François Hollande, c'est
la cam.
C'est mon rêve qu'il revienne.
C'est ton rêve.
Bah, en fait, je préférais vivre dans une France gouvernée par François Hollande que dans une France gouvernée par Emmanuel Macron
ou Jean-Luc Mélenchon.
Pour plusieurs, bah ça n'en parlons
Gabriel
pas.
Gabriel Attal.
Aussi, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me sentais en sécurité avec François Hollande, qui a été unanimement un bon président à l'international.
Moi, j'ai pas eu cette chance d'être en sécurité sous François Hollande. J'ai vraiment pas eu cette chance.
Bah. Moi, la première chose, vu l'état du monde, la question géopolitique, à l'époque, on avait une diplomatie qui fonctionnait très bien, on avait un chef de guerre qui prenait les bonnes décisions, et on avait un chef d'État qui tenait la nation. Et rien que pour ça, oui, c'était plus rassurant de vivre à l'époque François Hollande. Numéro 2, sur l'économie...
On oublie vite.
Numéro 2, sur l'économie, on était sur quelqu'un qui était à la fois pragmatique et à la fois de gauche, pour de vrai, contrairement à ce que des détracteurs diront. C'est-à-dire qu'il a proposé des notions comme la flexi-sécurité du travail, qui était à la fois pragmatique parce que adaptée à l'époque et à la fois vraiment sociale, contrairement à ce qu'a fait Macron. Donc,
la finance, c'est mon ennemi.
Ouais. Oui, mais la finance... Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
C'est le loi Rebsamen.
Je sais pas, c'est lui qui l'a prononcé.
Toutes ces lois qu'on casse le code de travail.
Moi, je considère que François Hollande a été un bon président. Et d'ailleurs, il y a un élément qui le prouve, c'est qu'on parlait de chômage toute la journée à l'époque de François Hollande. François Hollande a livré une France où il a inversé la courbe du chômage. On n'a plus jamais parlé de chômage depuis, et ça, vous ne pourrez pas le contester.
Alors, François Hollande, Gabriel Attal, Hollande, Mourad...
Love Hollande. Voilà.
Hollande 2.
Hollande.
Gabriel Attal, alors...
Et là, je vais me faire troller par les LFistes d'avoir dit des trucs comme ça. Parce que les LFistes, il faut le dire, hein, ils préfèrent Bardella à Hollande. Et ça, non, c'est un truc de ouf.
Non, tu
et LFistes. Je t'assure.
Alors, Hollande ou Attal,
effectivement.
Et je veux dire, pour moi, alors je vais sûrement choquer des gens. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un président de la République sans retrouver notre souveraineté. C'est la priorité de ce pays, c'est de retrouver notre souveraineté que nous avons perdue. Un président aujourd'hui qui est élu, il va appliquer le programme de Bruxelles. Aujourd'hui, les pays qui s'en sortent le mieux, et ça me coûte de le dire parce que c'est un constat, sont les pays qui ont la notion de nationalisme et de souveraineté. La Russie, par exemple, ou d'autres, je veux dire. Et nous, on l'a totalement perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de souveraineté, on est sous les ordres. Je parle économiquement. Je parle économiquement, bien sûr. La Chine, le Japon, des pays qui ont leur souveraineté et qui ont une notion de
nationalité. Nicolas Dupont-Aignan sort de ce corps.
Non, je ne suis pas Nicolas Dupont-Aignan. Ça me paraît indispensable. Donc là, c'est pour élire Tartampion ou Tartempette, et que dans les deux cas, il va appliquer ce que lui dit Ursula plus haut, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'Europe est une catastrophe pour notre pays. Une catastrophe totale avec l'impossibilité de jouer sur l'inflation pour réduire le montant de notre dette, avec des normes dont on ne comprend plus rien. Et quel que soit le président, il sera aux ordres. Donc, moi, je voterai aujourd'hui, je le dis très clairement, pour celui qui souhaitera que nous, Français, nous retrouvions notre souveraineté.
D'accord, donc...
pour faire du sur-mesure dans la politique économique dans ce pays.
Donc là, c'est ni l'un ni l'autre.
Sauf si un des deux nous fait une révélation. Et même si je trouve, à titre personnel, je connais François Hollande, mais je trouve que humainement, c'est un mec très bien.
Très bien, mais
je voterai pas.
Est-ce que, parce qu'il y a un point commun entre les deux, est-ce que finalement ils incarnent pas la même politique? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence à part l'âge et le parcours?
Gabriel Attal sera un excellent ministre.
Ils n'ont jamais rien produit dans leur vie.
Est-ce que finalement Hollande et Attal c'est pas le même produit? Attal pourrait être effectivement le ministre de François Hollande et vice versa. Donc finalement, je vois pas grande différence sur la politique. Et je pense que Bruno Poncet ne me démentira pas là-dessus.
Moi, je dirais juste que les deux là sont nés avant la honte. C'est pas compliqué. Entre carrément. Un qui a été Premier ministre, qui est un bébé Macron, parce qu'on peut pas faire autrement, qui a gouverné et qui dit maintenant je sais comment gouverner français, fallait le dire à ton patron il y a quelques années déjà, ça aurait été mieux pour nous. Et l'autre qui a pas voulu se représenter, qui s'est fait manger par son conseiller à l'Élysée, qui après est devenu ministre des Finances, et qui ensuite son parti fait 2,5, l'autre son parti n'existera plus bientôt parce que son parti est explosé.
Moi 2,5.
Elle n'a pas fait 2,5, Hidalgo.
Non, elle a fait 1,75.
Oh merde, putain, je donne des points.
Moins que Jean Lassalle.
Et moi, quand j'entends Flora nous dire c'est la gauche, excuse-moi, mais moi je sais ce que c'est qu'un social traître. Je suis né avant Mitterrand, avant les années 80, donc je sais ce qu'à quoi ressemble un social traître. J'ai vu 14 ans de social traîtrise. Lui là. Mon ennemi, c'est la finance. Ok, derrière, loi El Khomri, loi Rebsamen. En fait, il a plombé tout ce qu'il pouvait faire dans le code du travail. Aujourd'hui, le code du travail doit ressembler à deux feuilles comme ça. Je vais te dire, et encore, je suis même pas sûr qu'il y a un recto verso. Oui. Et ce monsieur nous dit qu'il va revenir. Alors moi, je vais vous dire juste un truc. Moi, je le connais. L'homme est très, très gentil.
Le mec est sympa.
Ah ouais, le mec est sympa. Il est drôle.
Il est pas toxique.
Mais surtout, franchement, qu'il écrive des bouquins. Qu'il écrive des bouquins et qu'il fasse. Non, mais qu'il fasse chroniqueur chez Quotidien, il va une fois par semaine. Et qu'il fasse chroniqueur chez Quotidien. Mais arrêtons la politique, parce que franchement, les deux là,
on a Benoît.
Il y a tel qu'il aille bosser. Hein.
Benoît, du côté de Limoges, qui est jardinier paysagiste. Bonjour, Benoît.
Salut, Benoît.
On a François Hollande qui se prépare, Gabriel Attal qui pense savoir ce qu'il faut pour les Français. Vous vous dites, tiens, pourquoi pas, ou vous êtes désespéré?
Alors, pour répondre à Mourad, non, c'est compliqué dans les jardins, dans l'espace vert, le tollé de travail.
Ah oui,
et ensuite, moi, je suis complètement, à 200% d'accord avec Mourad et Bruno.
Au secours.
Alors, le premier, je rejoins Bruno. Pour moi, les socialistes, ça fait belle lurette qu'ils sont plus de gauche, c'est une vaste fumisterie. Et puis s'il s'est pas représenté, c'est tout simplement parce que Bruno l'a dit, loi de travail.
On n'est plus de lui,
catastrophe. Ouais. Alors avec Hollande, on pense avoir touché le fond, mais avec Monsieur Macron, on creuse encore. Quant à Attal, ben c'est pareil. Il pense savoir ce qu'il faut faire.
C'est deux points de plus pour le déficit déjà.
Ouais, ben pourquoi s'il pensait savoir ce qu'il fallait faire, il l'a pas fait plutôt quand il était au gouvernement.
Bah parce qu'il aurait voulu. Alors soyons honnêtes, Gabriel Attal n'a pas décidé d'être dissous. Non. C'est Emmanuel Macron qui l'a dissous en quelque sorte. Il aurait aimé rester à Matignon, je peux vous dire.
Mais apparemment, il récupère vite. Hein.
Il veut dissoudre Macron. En fait, moi, je pense que les prochaines présidentielles, ça va être quand même vraiment compliqué. Ça va être une catastrophe.
Vous avez déjà fait votre choix ou pas pour la présidentielle, à l'heure où on se parle?
Non, parce que moi, je suis plutôt d'un tempérament de gauche, mais à gauche, il y a personne qui me convienne. À droite, c'est un peu pareil. Moi, c'est ce que je reproche, en fait.
Pourtant, il y a plus d'une vingtaine de candidats.
Ouais, vous savez quand même que ces deux-là nous coûtent un bras. Même le jeune Gabriel Attal, il a un appartement de fonction, il a des gardes du corps,
Non, c'est premier ministre.
Non, c'est pas vrai.
Est-ce qu'on peut écouter Benoît qui disait quelque chose de très intéressant sur le fait qu'il est orphelin politique? Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas.
Oui, bah oui.
Malgré la multitude de candidats.
Ah oui. Alors, si je peux rajouter quelque chose, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, parce que moi j'ai 49 ans, ça fait quand même quelques années que je vote. Ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve plus de représentants politiques qui rassemblent les Français. Alors, on est toujours en train de les épouser, le privé contre le public, les vieux contre les jeunes, ceux qui gagnent bien leur vie contre ceux qui la gagnent pas.
Ouais. Bruno, tu fais ça.
Je pense que la première des choses, c'est que tant que la sécurité et l'immigration restera le petit pré carré de la droite et que le social et l'écologie restera à gauche, ben je pense que ça avancera pas. Ça, c'est une première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, ben, comme disait Mourad, nous en fait je suis un salarié, moi je travaille depuis que j'ai 15 ans, donc pour l'instant j'ai pas spécialement prévu de partir à la retraite, mais un jour ou l'autre ça viendra. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on est quand même très imposé, très taxé. On voit nos services publics qui se délitent au fur et à mesure des années. Et dans le même temps, il n'y a pas un politicien qui prévoit des vraies réformes structurelles.
Il y en a un ou deux en ce moment. Il y en a un ou deux, ils sont pas à gauche.
Ouais. Alors attendez, Benoît, parce que Laurent, qui est dans l'Essonne, qui est gérant de société, veut lui aussi réagir. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Hollande, Attal, il y en a l'un des deux qui pourrait avoir vos faveurs ou pas?
Grosse hésitation. Hein.
Non, aucun des deux. Aucun des deux, moi, parce qu'on a vécu, comme certains disaient, Attal, c'est Macron, et moi j'ai jamais voté pour ce président, parce que dès le départ, c'était une évidence pour moi. Maintenant, François Hollande, j'ai beaucoup de respect, j'apprécie, mais je pense qu'on a tourné une page de sa carrière aussi. Ouais. Et moi, je vois, ces 10-15 dernières années, je voyais que deux personnes capables de rétablir la France, c'était Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Mais bon, on connaît l'histoire.
Et aujourd'hui,
moi, je vois que de Monsieur Dominique de Villepin, encore un Dominique, mais je pense que c'est le seul qui a la carrure.
Que des ex, en fait.
Peut-être
Peut-être qu'il faudra envisager un président, quelqu'un qui a déjà produit des richesses pour son pays.
Oui, mais Laurent, vous dites que François Hollande, sa carrière, elle est derrière lui. En revanche, Dominique de Villepin, sa carrière, elle est devant lui?
Non, peut-être pas, mais bon, on l'a jamais vu à l'œuvre.
Non, mais là, il a été Premier ministre.
Ce qui est audible sur Dominique de Villepin, c'est que jamais la politique étrangère n'aura prendra autant d'importance dans une élection présidentielle. Jusqu'à présent, la politique étrangère était un peu secondaire. Ouais, là, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que le prochain président devra avoir une grande diplomatie, parce que le monde va pas bien.
Benoît, Laurent, on va voir ce qu'en disent les Français. Tous les deux, vous dites, l'offre qu'on nous présente, c'est pas notre truc. Alors, Hollande et Attal se préparent, ça vous fait rêver, oui ou non?
J'imagine.
Oui, carrément, 10%, non, pas du tout, 89,3%.
C'est plus anxiolytique.
Dans un instant, je vous conseille de rester avec les GG parce qu'on va recevoir Frédéric Martel, le journaliste. Vous savez, c'est lui qui avait fait cette enquête sur le Vatican, qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelait Sodoma. Il revient avec Occident. Il est allé dans bon nombre de pays, Frédéric Martel. Il est allé en Turquie, en Italie, en Hongrie, en Chine, rencontrer les penseurs ennemis de l'Occident. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.